Vous avez de la chance. Merci, Jill. Jill m'a entendu. En plus, c'était pas drôle pour eux parce que c'est un sujet qu'on a vu avec eux il y a quelques temps. Donc, je dis bon, j'étais un peu frustré pour eux, même si c'est pas exactement la même chose dit de la même manière. Mais on a étudié ce passage-là avec eux. Alors, ce qu'on a étudié avec eux fin septembre, c'était le sacrifice d'Isaac par Abraham. Alors, c'est un sujet qui est finalement pas facile parce qu'en fait, c'est tout connu, quoi. En fait, tout est dit là-dedans. On a envie de se dire, même si on peut toujours trouver quelque chose, mais et voilà. Et du coup, c'est un peu lourd dans mon cœur de dire, bah, Seigneur, qu'est-ce que je peux faire, qu'est-ce que je peux dire, alors que c'est un passage qui est extrêmement connu. Donc, vrai qu'on va le lire, on va peut-être s'en écarter un petit peu et faire des choses qui ne sont pas directement liées au texte, mais il y a des idées qui m'ont marqué dedans et il y a une chose en particulier, donc je ne vais pas vous le dire tout de suite, mais on y arrivera tout à l'heure, mais qui m'a marqué quand on l'a fait avec les ados et je voulais vous le partager. Et pour une fois, le Seigneur ne m'a pas fait changer en cours de route mon sujet. Alors, c'est dans Genèse chapitre 22. Après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve et lui dit « Abraham !» Et il répondit « Me voici !» Dieu dit « Prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va-t'en au pays de Morija, et là, offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. » Abraham se leva de bon matin, sella son âne et prit avec lui deux serviteurs et son fils Isaac. Il fendit du bois pour l'holocauste et partit pour aller au lieu que Dieu lui avait dit. Le troisième jour, Abraham, levant les yeux, vit le lieu de loin. Et Abraham dit à ses serviteurs, « Restez ici avec l'âne. Moi et le jeune homme, nous irons jusque-là pour adorer, et nous reviendrons auprès de vous. » Abraham prit le bois pour l'holocauste, le chargea sur son fils Isaac, et porta dans sa main le feu et le couteau. Et ils marchèrent tous deux ensemble. Alors Isaac, parlant à Abraham, son père, dit, « Mon père !» Il répondit, « Me voici, mon fils. » Isaac reprit, « Voici le feu et le bois, mais où est l'agneau pour l'holocauste ?» Abraham répondit, « Mon fils, Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau pour l'holocauste. » Et ils marchèrent tous deux ensemble. Lorsqu'ils furent arrivés au lieu que Dieu lui avait dit, Abraham y éleva un autel et rangea le bois. Il lia son fils Isaac et le mit sur l'autel par-dessus le bois. Puis Abraham étendit la main et prit le couteau pour égorger son fils. Alors l'ange de l'Éternel l'appela des cieux et dit « Abraham, Abraham !» Il répondit « Me voici !» L'ange dit « N'avance pas ta main sur l'enfant, ne lui fais rien, car je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. » Abraham leva les yeux et vit derrière lui un bélier retenu dans un buisson par les cornes. Et Abraham alla prendre le bélier et l'offrit en holocauste à la place de son fils. Abraham donna à ce lieu le nom de Yahvé Jireh. C'est pourquoi l'on dit aujourd'hui, à la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. L'ange de l'Éternel appela une seconde fois Abraham des cieux et dit, « Je le jure par moi-même, parole de l'Éternel, parce que tu as fait cela, que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique, je te bénirai et je multiplierai ta postérité, comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est sur le bord de la mer. Et ta postérité possédera la porte de ses ennemis. » Toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité, parce que tu as obéi à ma voix. Alors ça, on voit le démarrage de cette histoire-là, c'est dit après ces choses, c'est-à-dire qu'il y a eu quelque chose avant, c'est logique. Ce qui s'est passé avant, vous le connaissez aussi, c'est Abraham qui a mis très longtemps avant d'avoir Isaac, il a eu Isaac quand il avait 100 ans. Et Abraham, en fait, il était dans le pays des Philistins. Et si on remonte un petit peu avant encore, Abraham a séjourné en Égypte avant. Et en Égypte, qu'est-ce qu'il a fait ? Il a menti, on va le tourner comme ça. Mais il a fait passer sa femme pour sa sœur, même si elle était aussi sa sœur, parce que faisant partie de sa famille. Mais il a insisté sur le fait que c'était sa sœur. Et ça a causé des problèmes en Égypte. Et donc pourquoi je vous dis ça ? C'est pour vous souligner qu'il y a un peu une évolution dans l'histoire d'Abraham, en fait. On voit Abraham qui était croyant, certes, qui obéissait à Dieu, mais des fois, il faisait les choses lui-même. Là, en l'occurrence, il se dit « je vais me débrouiller pour pas avoir d'ennui, je vais dire que c'est ma sœur, ça ira très bien comme ça ». Et ça crée des problèmes plus qu'autre chose. Et on voit après Abraham qui va faire confiance à Dieu, qui va avoir un fils, comme on lui a promis, à 100 ans. Et donc là, ici, il habite dans le pays des Philistins et il est considéré comme. Alors, on va pas prendre tous les versets, hein, mais il était considéré comme un prince puissant. Les Philistins lui disent ça. Un homme riche, un guerrier redoutable. Les gens le craignaient. Il était un prophète. Et c'était surtout quelqu'un qui était reconnu pour jouir de la bénédiction et de la protection de Dieu. Abraham, il avait obéi à l'appel de Dieu. Et en fait, on voit entre la période où il était en Égypte et là où on arrive, on voit que sa connaissance de Dieu, elle s'approfondit en fait. Il va s'en approcher, il va le connaître mieux et il va lui faire confiance. Et on verra plus ces épisodes où il fait n'importe quoi. Alors, on en voit un deuxième quand même, c'est quand il dit, bon ben voilà, Dieu m'a promis un fils. Ça ne marche pas avec Sarah, et il écoute Sarah, et finalement, il a un fils Ismaël avec la servante de Sarah. Donc là, voilà, c'est encore un raté qu'il a eu. Mais entre deux, il s'est passé du temps, et Abraham, il a certainement grandi pour en arriver au moment où Dieu lui dit, bah maintenant, ton fils, tu le sacrifies, tu me le sacrifies pour moi. Alors, on ne sait pas exactement quel âge il avait Isaac à ce moment-là, d'accord? Ça se trouve, c'était un enfant, un ado, un jeune homme. Il ne devait pas être si vieux que ça, hein. Mais voilà. Alors, ce qui est probable, c'est qu'il était ado quand même, et qu'il s'était passé une quinzaine d'années depuis qu'il était né. Mais c'est vraiment de la probabilité, hein. Il n'y a pas de date écrite dans la Bible, d'accord? Mais en tout cas, il a pu lier son fils, on voit par la suite, sans problème à l'autel. Alors, ça implique deux choses, c'est que le fils n'était pas trop grand pour se débattre, déjà. Et deuxième chose, c'est que le fils ne s'est pas débattu, parce que même un ado, vous le prenez, je pense que voilà, vous n'arriverez pas à le ligoter quelque part. Il y en a dans la salle qui peuvent confirmer. Voilà. Donc Isaac était considéré aussi comme le seul fils de la promesse. On dit il y a Ismaël, mais non, dans la Bible, Dieu lui dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes. Et ça aussi, c'est important, ça change la façon dont on voit le passage ici, en fait. Il y avait Ismaël, mais il n'était pas considéré comme le fils d'Abraham. Abraham l'aimait comme son fils, on le voit dans un paragraphe avant. Il a mal au cœur quand il doit le renvoyer hors de chez lui, le chasser. Et Dieu lui dit, mais t'inquiète pas, je prendrai soin de lui aussi. Il y aura aussi des rois qui vont sortir de lui, mais la promesse, ça passe pas par lui. Et Dieu considère que il a un fils unique qui s'appelle Isaac. Donc on enlève Ismaël de l'histoire. Abraham se lève de grand matin. Donc là, je parcours rapidement le texte, hein, juste vous dire des idées comme ça, et après, on s'attardera sur trois choses en particulier. Il se lève de bon matin. Alors, quand Dieu vous dit quelque chose, quand on vous dit quelque chose, hein, c'est pas juste Dieu, comment vous y prenez? Des fois, on a tendance à pas le faire trop de bon matin. Hein. On traîne justement le moment où on va se lever, comme ça, il n'y a pas de bon matin. Et puis, oh, je vais pas faire ça là maintenant. Là. Ouais, j'ai pas envie de le faire. Décalé, et puis on décale, et on décale, et puis après ça peut être le lendemain, et puis ça traîne. Et là, Abraham, il a pris les choses en main. De bon matin, je me lève, j'y vais. Et il y a un état d'esprit qui est différent, on sent la volonté d'obéir. Et c'est pour nous aussi est-ce qu'on se reconnaît là-dedans, en fait? Quand Dieu nous dit quelque chose, est-ce qu'on le fait rapidement? On dit, allez, je ne remets pas à plus tard, je le fais tout de suite. C'est ce qu'Abraham a fait ici. Alors ils font la route ensemble et on voit qu'ils vont aller du côté de Morija. Peut-être que tout le monde le sait déjà, hein, je ne sais pas, mais Morija, en fait, c'est l'endroit où Salomon a fait son temple un peu plus tard. Et c'est finalement pas très loin du mont du Calvaire, là où il y a eu un autre sacrifice. Parce qu'on va y arriver forcément. La foi d'Abraham, on est à la fin, a reçu une récompense, une promesse qu'on lit au verset 15. Et en fait, cette promesse, elle n'est pas nouvelle. Elle a été déjà donnée plusieurs fois par Dieu avant. Pas toujours sur les mêmes termes exactement, mais les éléments y étaient là. D'accord? Il y a une promesse d'un pays, il y a une promesse d'une postérité et d'une bénédiction au travers de la postérité. Et donc là, ce passage-là, il se conclut avec cette bénédiction-là et qui est une confirmation de la promesse, qui n'est pas une nouvelle promesse. Alors, les idées qui m'ont intéressé dans ça, c'est la première, c'est qu'en fait, c'est de l'Ancien Testament, mais c'est du Nouveau. Je ne sais pas si vous suivez mon idée, mais quand on lit ça, on lit les évangiles, en fait, directement. Enfin, c'est une surprise pour personne quand on dit que ça, c'est une image de Christ qui est sacrifié par Dieu. D'accord? Et c'est un sentiment que j'ai, mais on a souvent l'impression, alors moi je traite peut-être déjà trop sur Internet, hein, mais on a trop l'impression de les évangiles, pour les chrétiens c'est important, et le reste, bon ben, voilà. Et limite, les chrétiens pourraient se passer de l'Ancien Testament. C'est pour les juifs, c'est pas pour les chrétiens. Nous, on a le Nouveau Testament, c'est là que c'est important. Et cette idée-là, elle est complètement fausse. Et ça, c'est un point important. Quand on lit cette histoire-là, on a l'impression de lire du Nouveau Testament, et il faut pas faire cette séparation comme ça entre les deux testaments, se dire, ça, j'en ai pas besoin, je prends que ça. Le Nouveau Testament, il est aussi dans l'Ancien est dans le Nouveau, et les deux sont tellement mélangés qu'on ne peut pas les séparer. Si vous excluez l'Ancien, vous excluez toute une partie de la parole de Dieu, vous excluez plein de facettes de Dieu que vous n'avez pas forcément comme ça dans le Nouveau Testament. Il vous manque quelque chose. Les éléments qui nous permettent de dire ça, c'est par exemple toutes les prophéties que Jésus a accomplies. Elles sont bien dans l'Ancien Testament, n'est-ce pas? Et si vous coupez votre Bible, vous gardez, ben, vous achetez un Nouveau Testament, hein, au lieu d'acheter les deux et de couper. Vous prenez le Nouveau Testament uniquement, vous lisez. Quand vous voyez ces prophéties-là, ben, vous n'avez pas le contexte, vous ne savez pas comment elles ont été dites. Et si vous remontez à l'Ancien Testament, là, vous avez des éléments et ça permet de mieux comprendre. Alors oui, on ne dira pas le contraire, hein, le salut, il est bien dans le Nouveau Testament, on l'explique directement comme ça. L'œuvre de Jésus, elle est dans le Nouveau, mais elle est aussi dans l'Ancien. Si quand on est chrétien, je ne vais pas dire si vous êtes chrétien, c'est pas bien. Quand vous êtes chrétien, tout ce que vous voulez, c'est connaître Dieu. Et l'Ancien Testament, alors il suffit de regarder hein, physiquement, voilà, ça coupe à peu près là. Voilà. Donc si je prends cette partie-là, il manque les trois quarts de ma Bible et trois quarts d'informations sur Dieu. C'est un peu bête comme découpage, mais voilà, il vous manque plein d'informations si vous n'utilisez pas l'Ancien Testament. Et on entend ces commentaires, vous savez, un peu de « il faut lire ta Bible, hein. Quand t'es chrétien, il faut lire ». Déjà, c'est un ordre, vous savez, t'as pas le choix. Il faut lire ta Bible. Bon, après, si t'as pas le temps, tu lis déjà de nouveau, c'est pas mal, hein. Et indirectement, on est en train de dire que l'ancien, bon, bah, voilà, c'est facultatif, c'est pas important. Et c'est cette idée-là que j'aime pas, et au plus on travaille Ésaïe le mardi soir, au plus on a l'impression de lire du Nouveau Testament et un tas de choses sur Christ directement. Et je lui dis, mais c'est pas possible, on peut pas négliger comme ça l'Ancien Testament. Il faut à tout prix le lire, il ne faut pas se contenter de ce qu'il y a dans le Nouveau. Il faut aussi le Nouveau, hein. Je ne dis pas qu'il faut jeter l'autre partie de la Bible, mais il faut lire les deux et régulièrement, il y a plein plein de choses dans l'Ancien Testament. Alors, ce sacrifice donc de. En faisant l'andouille, j'ai perdu ma page. Ce sacrifice donc d'Isaac, c'est l'image de Jésus qui est sacrifié par le Père. D'accord? On voit ça donc à l'idée que je vous disais tout à l'heure, les deux personnages se dirigent vers le mont Morija, qui est l'emplacement du futur temple de Salomon et qui est en fait pas très loin du mont Calvaire. Donc il y a déjà un lieu géographique qui ressemble. Au verset 4, on voit que Abraham a fait 3 jours de route. Et c'était aussi la distance qui séparait Beersheba à Jérusalem. D'accord? On a l'impression de voir un peu aussi ces 3 jours, un petit clin d'œil aux 3 jours passés par Jésus dans la tombe. N'est-ce pas? Il y a un chemin qui a été parcouru là aussi. Au verset 6, ce qui est quand même le plus flagrant, je trouve, dans cette histoire-là, Abraham prit le bois pour l'Holocauste, le chargea sur son fils Isaac. Et là aussi, quand on reprend l'image dans le Nouveau Testament, Jésus, il a porté sa croix. Hein, effectivement, il y a eu l'aide de quelqu'un en cours de route, mais il l'a porté, le bois, pour son propre sacrifice. Et là, c'est ce qui se passe pour Isaac. C'est quand on lit des choses comme ça, on se dit, mais c'est pas possible, quoi. Il y a quelque chose quand même dans ces paragraphes qui est terrible et on va vraiment très très loin jusqu'au sacrifice de Jésus. Il y a un pont de plusieurs milliers d'années comme ça et on est en train d'écrire l'histoire de Jésus dans l'Ancien Testament. Et ça, je sais pas pour vous, moi ça m'émerveille et qu'à chaque fois qu'on est dans Ésaïe, je peux pas m'empêcher de le dire parce que je trouve ça magnifique. Il ligota son fils Isaac. Visiblement, après, à part s'il était vraiment jeune, mais s'il était jeune, il n'aurait pas remis le bois à porter, n'est-ce pas? Mais Isaac s'est pas débattu. Il s'est laissé ligoter. Abraham avait, alors je sais pas, hein, admettons Isaac avait 15 ans, Abraham en avait 115. Forcément qu'Isaac, on ne va pas dire qu'il était volontaire, il ne savait pas ce qui lui arrivait, mais il s'est pas débattu et il s'est laissé ligoter. Et il y en a un autre qui s'est pas débattu, qui s'est laissé ligoter, c'est Jésus. On est encore une fois dans cette image-là. Alors on a un ensemble et je me suis posé la question, alors je n'ai pas forcément la réponse, du coup je vous embête, je vous pose la question et je vous laisse réfléchir un peu. Mais pourquoi on a cette image-là dans l'Ancien Testament? Qu'est-ce que Dieu il avait besoin de faire, d'aller nous montrer ça 2000 ans avant, en fait? C'est bizarre quand même, on pourrait se dire, bah, il n'y avait pas besoin de faire toute cette histoire-là, une histoire d'Abraham, bon, sans cet épisode-là, et arrivé au Nouveau Testament, on aurait eu la vie de Jésus. Voilà, mais Dieu, il a rajouté un élément là pour nous, alors, je sais pas, un élément de un élément comme ça, c'est pour nous montrer que c'était prévu d'avance, en fait. Bien avant la venue de Jésus, il avait prévu de faire les choses de cette manière-là. Et quand on voit les prophéties dans les psaumes ou dans Ésaïe, on a des détails sur Jésus, ils l'ont percé, ils ont partagé ses vêtements, la Vierge qui tombe enceinte, l'endroit où il devait naître. L'ensemble de ces prophéties-là, le but c'est quoi? C'est que Dieu il nous dise, mais ça je l'ai prévu d'avance. Alors déjà ça nous rassure, on dit c'est pas au dernier moment, vous savez nous on est comme ça, hein, on voit quelque chose qui se passe et bon, oulala, il faut que je trouve un truc, je vais faire ça, tiens. Dieu il agit pas comme ça. Ça nous rassure, il a prévu ça de très longue date. Il savait que le péché allait être un problème. Et de très longue date, il a prévu la solution. Déjà, ça montre qu'il y a de la réflexion derrière, sans être péjoratif. Mais... Et l'autre chose aussi, c'est que ça s'est passé comme ça. Nous, on peut prévoir hein, 20 ans en avance. Dans 20 ans, je vais faire ci, je vais faire ça. Écrivez-le, vous verrez, dans 20 ans, vous ne le ferez pas. En général, on maîtrise tellement peu les circonstances qu'on n'en arrive pas là où on l'avait décidé. Et Dieu, il a prévu ça dès le départ, et arrivé au moment même, ça s'est passé exactement comme ça, dans les moindres détails. Ça, c'est aussi c'est quelque chose de rassurant pour nous. Alors, on donne les points communs entre ces deux histoires. Le point qui n'est pas commun, c'est que Isaac n'a pas été sacrifié. Alors, dans le cœur d'Abraham, c'était comme si, hein, il allait jusqu'au bout, presque. Mais Jésus, lui, il a été sacrifié jusqu'au bout. Pourquoi Dieu n'avait pas prévu qu'Isaac soit sacrifié là à ce moment-là et il lui a donné un substitut, lui a mis un bélier à la place. Jésus, c'était prévu qu'il meure. Il n'y a pas eu de substitut, c'était lui le substitut en fait. Et c'est pour ça qu'on ne pouvait pas encore une fois substituer, mettre quelqu'un d'autre à sa place. Voilà, bon, c'est pas l'idée la plus importante de ce passage-là, mais c'est quelque chose qui me marque quand on voit ces histoires dans l'Ancien Testament. Et on a l'impression d'avoir vraiment les évangiles sous les yeux. Je trouve ça magnifique, quoi. Je peux pas m'en empêcher. Alors, on a lu ça avec les ados au mois de septembre. Et j'ai voulu leur tourner l'histoire un peu de manière moderne, vous savez, en paraphrasant, en l'adaptant à notre époque. Alors vous voyez, ça va vous faire rire, forcément. C'est un peu fait pour. Mais voilà, il y a un but derrière. Donc, imaginons, en 2008, Dieu m'a promis que Raphaël, au travers de lui, j'aurai une grande descendance, que je serai béni. Il m'a dit qu'un de mes descendants, je sais pas, deviendrait président de la France, de l'Europe, un truc comme ça. Pourtant, l'été 2011, peu pas après Mathias est arrivé, mais on va dire 2011, imaginez que Raphaël est suffisamment grand, tout ça. Il me dit, Michael, prends Raphaël et va me le sacrifier. Alors je pars à pied vers le mont Éka. On adapte. Ça me prend bien 3 jours pour y arriver à pied. Hein. On est à peu près dans les mêmes dimensions. Raphaël, il marche pas très vite. Raphaël, il porte le bois. Je prends le barbecue avec moi. Et imaginez 3 jours à cogiter comme ça. 3 jours à être Raphaël à côté qui marche et je sais exactement ce que je vais faire avec lui. Et Raphaël qui me pose cette terrible question. Mais papa, on n'a pas pris les merguez avec pour le barbecue? Ah oui, ça fait rigoler. Mais quand je leur ai dit, j'avais la gorge, mais complètement nouée. Et je lui ai dit, mais mince, c'est pourtant ce qui s'est passé avec Abraham. Et pas en version rigolote comme ça. Hein. Imaginez le... On lit comme ça hein, super facilement. Isaac, voici le feu, où est l'agneau pour l'Holocauste? Abraham répondit, mon fils, Dieu se pourvoira lui-même. Hop, ah, ça se lit facile. Hein. Mais quand on se met dans la peau de l'histoire là, et qu'on se met à la place d'Abraham, on imagine le gamin à côté qui pose la question et... Et on se dit, mince quand même, il a fait quelque chose qui était super dur à Abraham dans cette histoire. Alors pourquoi on a cette histoire-là? Un autre élément aussi qui vient là maintenant, c'est que c'est peut-être plus facile de se mettre dans la peau d'Abraham. J'aurais pas fait la blague avec Jésus, j'aurais pas tourné l'histoire comme ça, c'était pas convenable. Mais avec Abraham, on peut se mettre dans sa peau, on peut le comprendre l'histoire. On peut pas se mettre dans la place de Dieu et dire « sacrifie Jésus ». C'est déjà plus compliqué pour nous, il y a des notions qui s'adaptent pas à nous. Mais là, Abraham, vraiment, ça s'adapte pleinement à nous, en fait. On peut se mettre dans l'histoire. Je l'ai déjà fait souvent, le truc avec 1 Corinthiens 13, vous le remplacez, vous mettez votre prénom à la place, au lieu de l'amour, de la charité. Vous lisez. Ça ne sonne pas du tout pareil, en fait. Je vous encourage à lire la Bible en vous mettant dans la peau des personnages, en fait. À vous identifier à eux. Et vous verrez qu'on ressent des choses. C'est un peu comme un film, hein. Il y a forcément d'entre vous qui se sont mis à pleurer devant un film. Pourtant, c'est un film. Il y en a un à côté qui est là. Bah, arrête, c'est la télé, c'est une histoire. Ouais. Mais n'empêche que quand tu es dans l'histoire, eh ben, tu ressens les choses comme les personnages et ça crée des sentiments. Et en fait, le but là, c'est pas juste de créer des sentiments pour faire bien. C'est de comprendre ce qu'Abraham a vécu et du coup, de comprendre la valeur de ce qu'il a fait derrière. En me mettant dans cette histoire-là, c'est comme ça que ça marche. Alors, petite mise en garde, hein, on n'est pas là pour faire de la procuration non plus. Je ne suis pas là pour vivre la foi d'Abraham, de Moïse, de David, tout ça. Dire, ah ouais, je me mets dans l'histoire, c'est vrai, ça a été terrible, et puis voilà quoi. Le but, ce n'est pas de vivre leur vie par procuration et d'oublier la mienne. C'est vraiment de voir ce qu'ils ont fait et de voir ce qui est applicable à la mienne, au contraire. Voilà. Ce n'est pas la même façon, hein. C'est juste un outil pour étudier la Bible, pour la lire. Plutôt que de se faire des films dans sa tête, de vivre dans les films et de ne pas vivre la réalité. L'identification à un personnage de l'histoire. Alors vous trouvez peut-être mon idée un peu bizarre, ou pas, tant mieux. Mais Jésus, c'est ce qu'il a fait. C'est pas une idée si bizarre que ça, n'est-ce pas? Jésus, il s'est identifié à un personnage de l'histoire, et le personnage, c'est moi, c'est vous, c'est chacun de nous, en fait. Il a pris la forme d'un homme, et on lit ça dans Philippiens 2. Philippiens 2 au verset 5. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Enfin, on peut même reprendre le 4, parce que c'est ça l'idée. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Existant en forme de Dieu, il n'a point regardé son égalité avec Dieu comme une proie à arracher. Alors, c'est peut-être un peu bizarre comme formulation. Ce qui est intéressant, c'est là, ici. Mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes. Et il a paru comme un vrai homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi, aussi, Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux et sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Alors, il est intéressant, pourquoi j'ai un peu lu la suite ? C'est qu'on voit finalement la même démarche que pour Abraham. Moi, je le lis comme ça. Il s'est dépouillé, il a pris la forme d'un homme, il s'est humilié, il s'est rendu obéissant jusqu'à la croix. Là aussi, il a pris la forme d'un homme et il était jusqu'au sacrifice. Et c'est parce qu'il y a eu, alors pas parce qu'il y a eu ce sacrifice, mais parce qu'il y a eu cette obéissance jusqu'au sacrifice que... il a été élevé et qu'il a pris la position qui était la sienne. Et l'histoire d'Abraham, c'est pas dans un sens le sacrifice qui est important. C'est ce qui est derrière. Pourquoi il a fait ce sacrifice-là ? Alors oui, on marque le sacrifice parce que c'est le sacrifice de son enfant. Mais pourquoi il a fait ça ? Parce qu'il était obéissant envers Dieu. Dieu lui a dit « tu fais ça », il l'a fait. Jésus, Dieu lui a dit « tu prends la forme d'un homme et tu te sacrifies pour eux ». C'est tout aussi inconcevable, en fait. C'est bizarre comme truc. Et pourtant, Jésus l'a fait. Il n'a pas cherché, il l'a fait. Et on a dans ce Philippiens-là, on a la même notion d'obéissance et du coup de la promesse derrière, et de l'élévation derrière. S'identifier à nous, en fait, c'était le seul moyen pour Dieu de réellement comprendre ce qu'on vivait. On disait tout à l'heure, hein, on se met dans l'histoire d'Abraham et c'est là où on voit ce qui s'est passé, où on le ressent d'une manière différente. Et Jésus, c'était la même chose. On pourrait dire Dieu, il sait tout, il est Dieu, il n'y a pas besoin de ça. Mais il est venu, il a pris la forme d'un homme pour vivre comme un homme, pour ressentir comme un homme, pour tout comme un homme. Et c'est pour ça qu'il l'a fait. On voit ça dans Hébreux 4, versets 15 et 16, car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses, sans commettre de péché. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secouru dans nos besoins. C'est bien ça que ça dit. Dès qu'il est, s'il n'était pas venu comme ça, il a trouvé une autre manière de payer pour notre péché. On pourrait dire, bah ouais, mais lui, il est Dieu, il comprend rien à ma vie. Il comprend rien au fait d'être un homme. Voilà, il y a quelque chose qui manque là. Et là, il l'a fait pleinement comme ça, parce que du coup, on ne peut pas dire ça. On peut dire, oui, effectivement, il est venu comme un homme. Alors oui, il était Dieu aussi, mais il était homme. Et du coup, il a vécu tout ce que nous, on a vécu. Il peut comprendre et il s'est mis à notre place, quoi. Et ça aussi, c'est encourageant, ça nous fait du bien. Et la conclusion dans ce passage d'Hébreux, c'est ça, c'est du coup, je peux m'approcher de lui avec assurance. Je vais trouver grâce, je vais obtenir miséricorde, et il va me secourir dans mes besoins, parce qu'il les connaît, parce qu'il a été à ma place. Dans Hébreux, on est un petit peu plus long celui-là. Dans Hébreux au chapitre 10, et à partir du verset 5, c'est pourquoi Christ, entrant dans le monde, dit « Tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Tu n'as agréé ni holocauste ni sacrifice pour le péché. Alors j'ai dit, voici je viens. » Dans le rouleau du livre, il est question de moi. « Pour faire, ô Dieu, ta volonté. » Après avoir dit d'abord « Tu n'as voulu et tu n'as agréé ni sacrifice ni offrande, ni holocauste, ni sacrifice pour le péché, ce qu'on offre selon la loi », il dit ensuite, voici, je viens pour faire ta volonté. Et on le lit pas pareil, en fait, je trouve, quand on a lu l'histoire d'Abraham avant, voilà, Dieu dit, je ne veux pas forcément un sacrifice. Alors là, pour Abraham, ça a été ça la condition quand même. Mais ce n'était pas le sacrifice qui était important, c'était l'obéissance. Et Jésus, il dit, voilà, ce n'est pas une question de sacrifice, d'offrande, c'est une question de faire ta volonté, d'obéir. Et tu m'as formé un corps pour faire, ô Dieu, ta volonté. On peut enlever les lignes intermédiaires, on a cette idée-là. Dans 1 Samuel 15, Samuel dit à Saül, alors le contexte de ça, c'est que Samuel, il a donné rendez-vous à Saül pour offrir un sacrifice avant d'aller battre les Philistins à la guerre. Donc Saül rassemble ses troupes. Et Samuel, eh ben, il tarde, et Saül voit les Philistins qui approchent, il dit mince, ça va pas bien se finir tout ça, et bah, il fait le sacrifice lui-même. Au moment où il est en train de faire le sacrifice, Samuel arrive, il dit mais qu'est-ce que t'as fait ? Alors Saül lui invente un tas de choses, hein. Il y a du vrai à chaque fois dans ce qu'il dit, les gens du peuple ils m'ont poussé, j'avais pas le choix, enfin voilà, et je l'ai pas fait, au début il dit je l'ai pas fait, puis après tout doucement ça, voilà. Et Samuel il lui répond, l'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices, comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel ? Voici, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices, et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers. C'est clair, n'est-ce pas ? Alors, on revient à Abraham, dans Genèse. L'autre idée qui est importante, en fait, dans le sacrifice qu'il a fait, c'était, on en a parlé tout à l'heure, il n'a pas sacrifié l'un de ses enfants. Mais il y a une plus grande valeur que ça. Il a sacrifié son premier-né, son fils unique. Et ça, c'est différent. On a fait avec les ados un petit quiz, avec que des questions, qui est la première, je sais pas, qui est la première équipe du championnat de France de football, qui est le premier martyr, qui est l'inventeur de l'avion, je ne sais pas. Et à chaque fois, c'était ça la question. Et à la fin, il y a eu des réponses plus ou moins. Et à la fin, je leur dis, mais c'était quoi le point commun des questions ? Quand on est concentré sur les réponses, on ne voit plus les questions. Mais c'était qui est le premier ? Et si vous dites, j'ai inventé l'avion en deuxième, ben... Ça n'a aucune valeur, en fait. Celui qui l'invente en premier, c'est lui qui a la valeur, c'est lui qui a fait la découverte. Vous l'avez fait après, ouais, bah, c'est bien, hein, c'est bien, mais pas aussi bien que le premier. Ma voiture tombe en panne, je suis obligé d'en racheter une, J'en rachète une, bon. C'est la vie normale. Ma première voiture tombe en panne. Je suis obligé d'en racheter une. Bah, c'est plus la première. Et c'est pas pareil. C'était ma première voiture. C'est idiot, hein, avec une voiture comme ça. Là, c'est pareil avec le fils d'Abraham. C'est son fils unique. Et même si Dieu lui en donnait un autre après, c'est pas pareil. C'était ce fils-là, c'était le fils de la promesse, son premier. Et il y a une grande valeur là-dedans, en fait, dans le premier-né. Et on le voit la même chose après dans le Nouveau Testament, n'est-ce pas? Dieu, il sacrifie son fils unique, son premier-né. Et on voit cette notion de premier-né dans le Nouveau Testament. Alors, j'insiste, hein, on a dans notre tête, bah non, non, il y a Ismaël. Non, Ismaël, il faut l'enlever. Et c'est Dieu lui-même qui le dit. Je vous relis le début. Dieu dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes. Et à la fin, au verset 15, l'ange de l'Éternel dit, parce que tu as fait cela, tu n'as pas refusé ton fils, ton unique. C'est pas moi qui l'invente juste pour que l'histoire elle donne mieux, hein. C'est Dieu qui le fait comme ça. Ismaël, c'était le fils de l'esclave. C'était celui qui ne devait pas hériter des possessions d'Abraham. Isaac, c'était le fils de la promesse qui avait justement tout l'héritage pour lui. Et une petite question qui en aparté comme ça, mais de qui est-ce qu'on est le fils? Est-ce qu'on est encore le fils de l'esclave, de la loi, on nous dit ailleurs d'ailleurs? Est-ce que je suis lié à la loi et destiné à rien hériter en fait? Ou est-ce que je suis le fils de la promesse, de l'évangile, et dans ce cas-là, j'ai tout l'héritage pour moi? C'est deux façons complètement différentes de vivre en fait, hein. Soit je suis assujetti à une loi, j'ai une vie qui est ennuyeuse. Soit j'ai des promesses, et là c'est carrément pas la même vie. Alors en lisant l'histoire d'Abraham avec les ados, donc on lisait donc le premier-né, le fils unique, et l'histoire de Raphaël qui me demande où est-ce qu'on va sacrifier. Et je me dis, mais j'aurais été incapable de faire ça, Seigneur. Heureusement que tu ne me l'as pas demandé. Et je me dis qu'en fait, il n'y a pas grand monde qui aurait été capable de faire ça. On lit dans la Bible qu'Abraham, c'était quelqu'un de particulier. C'était l'ami de Dieu et l'un des rares à parler directement avec Dieu, en fait. Alors, il y a eu Moïse aussi qui était obligé de mettre un voile parce qu'il parlait directement, il voyait une représentation de Dieu. Mais il avait une grande foi. On voit juste cet épisode qui est, je trouve, impressionnant de Abraham qui négocie avec Dieu. Il faut le connaître pour en arriver là. Vous feriez pas ça, le président vient, vous n'allez pas commencer à dire, attends, on va négocier. Non, c'est quelqu'un qui est carrément au-dessus de vous, vous ne le faites pas, vous ne le connaissez pas. Par contre, si vous êtes, je ne sais pas, hein, moi, quelqu'un de vraiment très proche de lui, vous pouvez vous le permettre parce que vous n'y allez pas devant lui comme devant le président, mais comme devant votre ami. Et je crois qu'il y a de ça dans Abraham, en fait, c'est qu'il n'avait pas juste Dieu devant lui, il y avait un ami devant lui. Ça n'enlève pas au principe qu'il avait Dieu devant lui, il le sait, hein, il le dit. Il dit, je vais parler une dernière fois, après j'oserai plus, je veux pas. Voilà. Il sait qu'il y a des limites quand même. Mais pourquoi est-ce qu'il a été capable d'obéir comme ça? Je pense justement à cause de tout ça, parce qu'il était l'ami de Dieu, qu'il le connaissait, et voilà, il y a toute une histoire avec Abraham, hein. 175 ans qu'il a vécu. Et il a eu le temps largement de connaître Dieu, de faire des erreurs, d'apprendre et d'avoir une confiance qui grandissait en Dieu. Alors, je crois qu'aussi, il y a quelque chose d'intéressant, c'est que au plus le sacrifice demandé, au plus le. Alors, sacrifice, non, c'est pas ce qui est important, mais le pas d'obéissance demandé est grand, au plus la promesse derrière qu'on a, elle est grande aussi. Ce que Dieu dit à Abraham, il ne l'a pas dit à grand monde en fait, hein. Une promesse aussi forte que celle-là. On peut penser peut-être à David qui a eu quelque chose qui ressemblait à ça, mais il n'a pas eu beaucoup. Vous voyez, quand on reste dans le cercle des Abraham, David, Moïse, voilà, c'est les rares. Dieu promet quelque chose et ensuite il demande de le sacrifier. C'est ça qui est perturbant dans cette histoire. Et je pense que c'est ça qui était dans la tête aussi d'Abraham. Dieu lui dit, en travers d'Isaac, je vais te donner une grande bénédiction. 10 ans après, Dieu lui dit, sacrifie-moi Isaac. Ah non, alors nous tels qu'on est, attends Seigneur, il y a plein de possibilités. On s'installe, on réfléchit, déjà c'est pas bien, on réfléchit, on se dit, bon, il y a forcément l'une des deux fois où tu m'as pas parlé. Soit Isaac, c'est pas le fils de la promesse, dans ce cas-là, bon, Déjà, sacrifier mon fils, c'est compliqué, mais bon, c'est moins compliqué s'il n'est pas le fils de la promesse, quand même. Et soit c'est vraiment le fils de la promesse, mais c'est pas toi qui me parles. C'est le malin. C'est le malin, il m'a dit de le sacrifier parce qu'il veut annuler la promesse que tu m'as faite. Et là, on est parti. On fait des réflexions dans tous les sens, et voilà. Et là, Abraham, qu'est-ce qu'il fait? De bon matin, il se lève, il y va. Ah, il n'y a pas eu le temps de cogiter. Hein. Enfin, si, la nuit, certainement, il a dû très mal dormir cette nuit-là. Ou pas. Je sais pas. On sait pas. Là, on ne peut pas se mettre à sa place, malheureusement. Nous, on dormirait pas, hein, c'est sûr. Mais pourquoi il l'a fait? Pourquoi il s'est décidé aussi rapidement? Parce qu'il était sûr et certain que c'était la parole de Dieu. Dans le doute, principe de précaution, je ne le sacrifie pas. Nous, c'est notre façon à nous de faire les choses en moderne. Hein. Si on n'est pas sûr, on ne fait pas. Voilà. Bah, il n'y aurait pas toute la Bible si les gens dans la Bible avaient pris ce principe de précaution-là, ils n'auraient rien fait du tout, on n'aurait rien dans la Bible. Mais ils n'ont pas fait les choses comme ça, comme des fous, à la légère. C'était juste qu'ils savaient que c'était la parole de Dieu. Et dans les deux cas, ils savaient que c'était la parole de Dieu. C'était la promesse et c'était le fils qui devait sacrifier. Alors, dans la tête d'Abraham, on le lit dans Hébreu, hein. J'ai plus la formulation, mais il avait l'espoir que Dieu ressuscite son fils, en fait. Ça nous dit comme ça dans Hébreu, je crois. Hein. Il avait confiance suffisamment en Dieu pour croire qu'il pouvait le ressusciter. Et voilà, c'est son explication à lui. Bon, je suis sûr que c'est les deux fois. Bon, bah, voilà. Limite, Dieu, il se débrouillera. Et quand je dis Dieu se débrouillera, c'est paraphrasé. Hein. Mon fils, Dieu se pourvoira lui-même de l'Holocauste. Est-ce que nous, on en est arrivé à cette connaissance de Dieu au point où quand il dit quelque chose, je sais pertinemment, sans aucun doute, que c'est lui. Et dans le cas d'Abraham, j'obéis. Tout de suite. Sans commencer à réfléchir, à prendre du temps, à demander une première confirmation, une deuxième éventuellement. Voilà. On est loin de tout ça. Hein. Je ne sais pas vous, mais quand on lit cette histoire d'Abraham, ça paraît si simple. Hein. Et pourtant, dans sa tête, il a dû se passer plein de choses. Mais il a fait confiance. Il a fait confiance, il savait que c'était Dieu, il a fait confiance et il s'est dit, bah, Dieu, il fera, c'est tout. Ce qui est aussi terrible dans cette histoire, c'est qu'Abraham n'avait pas de Bible. Parce que nous, on a la Bible au cas où, c'est un parachute aussi, ça. Hein. Vous allez regarder dans la Bible, est-ce que ça correspond à ce que Dieu peut demander aux gens dans la Bible? Alors, si par malheur, il y a un exemple contraire dans la Bible, là, c'est fichu, vous n'allez pas obéir. Et comme il y a des exemples dans tous les sens dans la Bible, vous allez forcément trouver un exemple qui vous va, n'est-ce pas? Abraham, il n'y avait pas de Bible. Tant mieux pour lui, c'était plus rapide à décider, hein, n'est-ce pas? Mais la Torah, les premiers livres de la Bible, ils sont rédigés par Moïse après, 400 ans après. Il n'y a même pas la Bible pour s'aider à se décider. C'est-à-dire qu'il y a juste eu la parole de Dieu, visiblement quelque chose d'assez clair, quoi. C'est pas juste, je sais pas si c'est un rêve, s'il a entendu une voix, quelque chose, mais c'était quand même suffisamment clair pour dire, tu prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, comme ça on est sûr de ne pas se tromper, va au pays là-bas, tu me l'offres en sacrifice. Rien, pas d'écrit pour confirmer, rien du tout. Ça aussi, hein. Avec l'administration, maintenant on veut des écrits partout. Dieu, il n'envoie pas d'écrits, il ne confirme pas. Et Abraham, il le fait. J'insiste hein, lourdement, mais je trouve qu'il est vraiment sur une parole de Dieu. Alors, on ne sait pas non plus, hein. Après on peut jouer toujours, hein, ça c'est nous encore une fois, on peut jouer et dire, ah, entre le verset 2 et le verset 3, peut-être qu'il s'est écoulé une semaine, un mois, et qu'il a réfléchi, qu'il a pris le temps. Ouais, je ne suis pas sûr. Alors, est-ce que vous en êtes avec Dieu? Est-ce que vous êtes prêt à faire ce genre de sacrifice? Dieu, il ne demande pas des sacrifices pour des sacrifices. Il ne va pas vous dire, tiens, c'est quoi le premier truc dans ta vie, là, ton premier-né? Ça, allez, sacrifie-le-moi. C'est pas de la torture, c'est pas, il ne s'amuse pas avec vous. C'était quoi le but de Dieu, là? C'était, de une, tester l'obéissance d'Abraham. De deux, surtout, vérifier, est-ce que j'ai bien la première place dans ton cœur? J'ai bien la première. Et on ne peut pas dire ça, hein, y a trop de place dans notre cœur, mais est-ce qu'on peut dire la première et l'unique place dans ton cœur? Comme le Fils, le premier, l'unique. Il ne vous demandera pas de sacrifier n'importe comment. Ce qu'il veut, c'est s'assurer qu'il est la première, l'unique place dans votre cœur. Et c'est ce qu'il a fait avec Abraham, là. Des fois, on se dit, c'est bien hein, quand même, j'ai une toute petite foi comme ça, au moins Dieu me demande des choses qui ne sont pas trop grandes. Si j'ai une grande foi comme ça, Dieu me demande des trucs de fou. Ouais, mais la taille de la promesse derrière, elle dépend aussi de l'épreuve et de votre foi derrière. Donc, dans un sens, ça incite quand même à dire, bah, allez, Seigneur, je veux. C'est pas que je veux en arriver là, mais je vais être capable d'obéir et je ne sais pas ce que tu me demanderas, mais je vais être capable d'obéir comme l'a fait Abraham. Dieu, il a fait ça, hein. On en revient, hein. Toujours ces deux passages, ils sont liés. Dieu, il a donné son premier, son unique. Il l'a sacrifié pour nous et Jésus, il a simplement obéi, il a fait ce que lui demandait le Père. Et Jésus, c'est Dieu. Il s'est obéi à lui-même. Vous voyez, il y a quelque chose de bizarre là-dedans. Mais Dieu, il a sacrifié ce qui avait la première place dans son cœur, son Fils, pour nous. Et nous, des fois, on se retrouve un peu dans la place de cet homme, vous savez, dans la parabole, qui va voir une personne visiblement riche. Et la personne dit, bah, écoute, tu me dois 200 000 euros. Maintenant, ça suffit, tu vas en prison, tu payes ta dette. Oh non, 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 s'il te plaît, fais pas ça, je vais te les payer. Et bon, dans un élan d'amour, on dit, ok, je te les remets. Et derrière, qu'est-ce qu'il fait? Il rencontre quelqu'un qui lui doit 1 euro. Il dit, ah, tu me paieras mes 1 euro. Voilà, mais on est comme ça, on rigole aussi, hein. On rigole aussi, mais on est comme ça. Dieu, il nous a donné quelque chose d'une énorme valeur. Il nous remet une énorme dette. Et quand il nous dit, ben, écoute, ça, tu sais, ça prend de la place dans ta vie et il faudrait peut-être que ça diminue. Ah, mais Seigneur, quoi, enfin. C'est important pour moi, tu sais. Et puis, on se met à négocier. Hein, et finalement, on est capable de négocier, hein, comme Abraham. Pas pour les mêmes choses. Et Dieu nous fait un énorme sacrifice. Et nous, il n'y a pas le retour derrière. Il n'y a pas, ok, Seigneur, tu as fait ce sacrifice-là pour moi. Je te donne la première, l'unique place dans mon cœur. Je peux rien donner de plus, j'ai que ça. Voilà. Je vous rappelle juste les idées rapidement. Ne négligez pas l'Ancien Testament. Il y a vraiment des perles dedans. Il n'y a pas que Ésaïe. Il y a des perles ailleurs que dans Ésaïe aussi. Ésaïe, c'est super. Relisez-le, ça n'arrête pas. C'est vraiment super. L'Ancien Testament, il fait partie de la révélation de Dieu comme le reste. Les chrétiens ont fait un choix au départ d'inclure certains livres ou pas dans la Bible. Je pense que leur choix y avait été mûrement réfléchi. Il y a des conséquences sur les siècles après, hein. Et ils ont choisi de ne pas couper l'Ancien Testament. Ils l'ont gardé. Il y a des gens qui ont passé leur vie à recopier les paragraphes de l'Ancien Testament pour que ça perdure. C'est pas du hasard, hein. Il y a une valeur là-dedans. Dieu, il veut qu'on en profite, qu'on en bénéficie. Un moyen de comprendre la parole, c'est de s'identifier aux gens, c'est de se mettre dans leur peau et d'essayer de vivre ce qu'ils ont vécu. C'est un peu ce qu'a fait d'ailleurs Étienne tout à l'heure dans son exhortation. Il y a vraiment quelque chose là où on lit la parole, et je me sens concerné aussi, hein. On la lit très facilement, des paragraphes qui sont des fois terribles, terribles, et on lit ça comme ça, hop. On n'a aucune sensation, aucun. C'est pas une question de sensation non plus, mais aucun sentiment. Voilà. Aucune réaction par rapport au passage. Comment vous voulez que Dieu nous parle si on est comme ça? On est froid. Et Dieu, il veut qu'on ressente ces choses-là et qu'on se dise, ah oui, c'est vrai, il y avait ça. Et on en comprend beaucoup mieux la valeur quand on fait ça. Et Jésus l'a fait. Jésus l'a fait. Dieu, il nous demande l'obéissance avant les sacrifices. C'est vrai que ça parle d'un sacrifice, mais le point important. Dieu ne dit pas parce que tu as sacrifié, mais parce que tu ne m'as pas refusé ton unique. C'est une formulation qui est différente. Et il dit, parce que tu n'as pas refusé de m'obéir, parce que tu m'as obéi, je vais te bénir. Et est-ce que vous êtes prêt à donner l'unique, la première place dans votre cœur à Dieu? Lui, il l'a fait pour vous. Et quand on se retrouve devant Dieu à dire, bah ouais, mais ça va pas. Voilà. Seigneur, je te remercie pour ta parole, je te remercie des choses que tu as mises sur mon cœur et je te prie de nous aider à pas rester insensibles à ta parole. Seigneur, il y a des paragraphes qu'on connaît presque par cœur et on a tendance à les lire beaucoup trop vite. Je te prie de nous aider à ralentir, Seigneur, à prendre le temps et à comprendre la valeur de ta parole, à creuser, Seigneur, à chercher et à voir tout ce que tu veux nous apporter. Seigneur, ce n'est pas une torture pour nous juste de devoir faire ça. C'est une grâce d'avoir ta parole, Seigneur, et c'est une valeur, Seigneur, qu'on ne comprend pas. Et je te prie de nous aider à comprendre la valeur de ce qui est dedans, de l'appliquer à nos vies. Seigneur, agis dans nos vies, aide-nous à être les amis de Dieu, comme était Abraham, à pouvoir t'obéir, te faire confiance. Seigneur, il y a tellement de valeurs dans cette histoire-là, et on te prie vraiment de les appliquer à nos cœurs, de toucher nos cœurs, Seigneur. Amen.